comme les brillants entrepreneurs, épargnez chez Suno Assurance pour garantir le financement de vos projets. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La consommation de vin, de bière, de rhum peut revêtir plusieurs formes. Un verre de temps en temps, pour d'autres plus régulièrement. Des excès lors de dîners entre amis. Considérer l'alcool comme une porte de sortie, une échappatoire. Mais à force de griserie, ne plus ressentir l'ivresse, juste le besoin de boire. En fonction des milieux sociaux du pays dans lequel nous vivons, de notre entourage familial ou professionnel, le regard ou la tolérance au sujet de l'alcool varie. Mais ce qui ne change pas, quelle que soit la latitude ou la culture, c'est l'impact qu'a l'alcool sur la santé. Un ennemi pour l'organisme et un fardeau pour les systèmes de santé. Il enivre et ronge, il exalte et isole. Il déstresse et détruit. Foie, cœur, atteintes neurologiques et mentales, survenue de cancer, 200 maladies ont un lien direct avec l'alcool. Et l'on estime que l'alcool est la deuxième cause de mortalité en France et provoque dans le monde 3 300 000 décès, ce sont les chiffres de l'OMS. Et en dépit de tous les risques qui l'accompagnent sur le plan sanitaire et social, eh bien boire de l'alcool reste encore valorisé dans de nombreuses sociétés. On célèbre le terroir, on vante une pseudo-liberté en occultant la dépendance et les souffrances physiques et psychologiques que l'alcoolisme implique. Bref, on banalise l'alcool comme on a banalisé le tabagisme pendant des décennies. Ce qui explique, par exemple, qu'aujourd'hui, en France, près de 60% des jeunes déclarent, à l'âge de 17 ans, avoir déjà connu un épisode d'ivresse. Et la lutte contre l'alcoolisme, on en parle avec vous, professeur Amine Benyamina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre addictologue, chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif en région parisienne. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec la Guinée, avec le docteur Keïta Mamadi Mori, psychiatre addictologue au CHU de Donka, donc à Conakry. Et en fin d'émission, nous retrouvons la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, sexologue. Notre numéro, c'est le 33 84 22 75 75. Et pour poser vos questions, notre page Facebook aussi, Priorité Santé, en laissant votre numéro pour qu'on vous rappelle.
Priorité Santé sur RFI.
Pour moi, l'alcoolisme, c'est juste commencer à boire tous les jours, ne serait-ce qu'un verre, si vraiment t'en as besoin tous les jours, c'est ressentir le besoin, je pense.
Ça commence quand tu sais pas dire non, quand on te propose un verre et que ça devient trop récurrent. Et que quand on t'en propose pas, c'est toi qui commences à le proposer aux gens pour que vraiment tu boives un maximum tout le temps.
Quelqu'un qui ne boit absolument pas d'alcool, c'est peut-être quelqu'un qui soit a besoin de ce contrôle, ou c'est juste parti d'un style de vie sans alcool ou très simple. Enfin, moi, je bois aucun mal à ça.
Pour moi, c'est quelqu'un de chiant. Tu sais que tu vas pas pouvoir aller en terrasse avec lui, tu vas pas pouvoir parler et il sera jamais un peu dévergondé, on va dire. T'invites quelqu'un en soirée qui aime pas l'alcool, c'est comme inviter un vegan à un barbecue. Ça n'a aucun intérêt.
Et moi je trouve que c'est pas dérangeant, t'as pas besoin de boire pour t'amuser. C'est peut-être quelqu'un qui veut, qui est pas par conviction religieuse, pourquoi pas. Ça me dérange pas du tout quelqu'un qui boit pas.
Impression recueillie sur une terrasse de café du 11e arrondissement à Paris par Amélie Beaucourt. Quand on écoute ces jeunes consommateurs, professeur Amine Benyamina, on entend que l'alcoolisme c'est quelque chose d'assez flou. Et aussi que l'image de ceux qui ne boivent pas n'est pas toujours très positive.
C'est l'identité à la française. On a une espèce de confusion, de fondu enchaîné entre le plaisir et les problèmes liés à la consommation d'alcool. Il se grève dans notre imaginaire collectif à la fois les plaisirs liés au vin, qui est un produit que nous aimons, que nous fêtons et que nous mettons en avant et qui représente un atout pour la France. Le luxe, le beau, le bon, et en même temps, on oublie, on occulte très clairement les gens qui souffrent de l'alcool. Il y a 49 000 morts par an en France de gens qui souffrent, qui pâtissent de l'alcool. Donc c'est un aspect méconnu, mais c'est un aspect réel. Et donc ça donne cette espèce de mosaïque un peu très hétérogène de la perception de l'alcool en France.
Justement, pour se faire une idée, professeur Benyamina, consommation d'alcool qui diminue, hein, c'est une constante depuis les années 60 en France. Et pourtant, on estime officiellement que 10% de la population aurait un problème d'alcool. Qu'est-ce qu'on entend déjà par ce terme un petit peu politiquement correct de problème d'alcool?
Ce qu'on appelle problème avec l'alcool, c'est un problème, c'est-à-dire on sort de la norme partagée dans trois domaines. Les problèmes somatiques, c'est-à-dire physiques. Ben, j'ai une hypertension, j'ai un essoufflement, je suis rouge, j'ai pris du poids, je suis moins performant que si mon corps n'avait pas autant ingurgité d'alcool. Je suis stressé, je suis anxieux, je suis pas très bien, je suis un peu déprimé. C'est l'effet directement ce qu'on appelle l'intoxication de l'alcool. Et puis des problèmes dans l'environnement. J'ai des problèmes avec mon conjoint, j'ai des problèmes dans le travail. Je ne suis pas quelqu'un qui passe inaperçu parce que je porte les stigmates de l'alcool. C'est ça les problèmes. On ne parle pas de dépendance, on parle de problèmes liés à l'alcool.
Est-ce que les gens font le lien justement entre ces différentes manifestations sociales, de santé, et le fait qu'ils aient bu un verre de trop ?
Difficilement. Il y a un vrai déni. Il y a un déni de la personne qui est actrice de son drame, en gros, et puis un déni partagé de l'entourage qui, très clairement, accepte, parce qu'il y a une espèce de tolérance, parce que quelque part, les problèmes ou bien les difficultés liées à l'alcool nous renvoient à notre propre comportement vis-à-vis de ce produit. Et donc, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est pour ça que les grandes avancées en matière de santé publique, si on devait en faire une, c'est ce qu'on appelle la dénormalisation de la consommation d'alcool. On n'y est pas encore.
Qu'on l'a fait, par exemple, pour le tabac? Parce qu'on fait souvent le parallèle entre ces deux addictions, puisque ce sont deux grands problèmes de santé publique. On a réussi sur le terrain du tabagisme que l'on n'a pas réussi sur celui de l'alcool. Pourquoi, professeur Beniamina?
Parce que le tabac est un produit qui n'est pas un produit cocorico. C'est pas un produit local. C'est un produit extérieur qui est fabriqué ailleurs. Il n'y a pas une histoire du tabac chez nous, comme on peut y avoir, il peut y avoir une histoire du cannabis dans d'autres pays. La France est traversée par ce vin. Et le vin, il est à la fois spirituel, religieux, culturel. Donc c'est cet aspect qui est difficile. Et pour pouvoir faire passer une politique de santé, un discours de santé publique, il faut clairement distinguer sans culpabiliser et surtout ne pas oublier tout l'aspect plaisir. Si on oublie l'aspect plaisir, évidemment, on n'y arrivera pas. Sachez qu'en France, quand même, vous avez dit tout à l'heure, Caroline, on a baissé la consommation, mais on reste quand même le troisième pays qui consommant par personne et par an le plus d'alcool au monde.
Et parce qu'on vient de très loin quand même.
On vient de très loin.
Okay. Professeur Beniamina, avant d'aborder la question de la dépendance, l'alcool responsable de près de 200 maladies, comment est-ce qu'on fait le lien entre cette consommation et ces pathologies?
Eh bien, la science, depuis quelques années, nous permet de montrer l'imputabilité directe de l'alcool, du produit alcool, avec les cancers, les hypertensions. Et de plus en plus, on est précis. Il n'y a pas que de l'épidémiologie, il y a maintenant de la science, de la biologie qui permet de montrer ça.
Et justement, sur le plan physique, physiologique, d'où vient l'addiction, professeur Beniamina? Est-ce qu'on a les ressorts, justement, dans l'organisme? Qu'est-ce que c'est le produit? On parle de la nicotine pour le tabac, toujours pour faire ce parallélisme. Qu'est-ce qu'il y a dans l'alcool qui rend dépendant?
Alors, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse, c'est plus une hypothèse, c'est la théorie transnosographique, c'est-à-dire, quelles que soient les addictions liées à transnosographique des addictions. On peut être dépendant à l'alcool, au tabac, à la nicotine, au cidre, au jeu, au sexe. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens d'énumérer va avoir ce qu'on appelle un point final dans le cerveau et une région qu'on appelle le système de récompense. C'est une région dans le cerveau, le cerveau archaïque, qui est stimulée et qui va produire, et qui va surexciter une zone, qui va produire, qui va libérer ce qu'on appelle des neuromédiateurs et qui vont finalement perturber ce système. Et c'est ce qu'on appelle le système de récompense. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout le monde connaît la dopamine. En gros, c'est un neuromédiateur que l'on connaît. Je suis très dopaminé. Eh bien, tous ces produits vont avoir le même effet.
Est-ce que ça veut dire que s'il y a un effet chimique sur le cerveau, on peut recourir à de la chimie pour interférer dans cette réaction, pour couper la réaction?
Bonne question. L'explication est simple, mais la réponse est plus compliquée. Mm-hmm. Si on l'avait, ça fait longtemps qu'on aurait éradiqué toutes les addictions.
Le cachet anti-alcoolisme.
Absolument, on ne l'a pas encore.
Et vous avez signalé justement les addictions, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs addictions combinées. Est-ce que ça veut dire que certaines personnes sont justement plus sensibles, plus vulnérables à des multi-addictions, professeur Beniamina?
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les typologies, les facteurs de vulnérabilité psychologique. C'est pour ça que c'est pas si simple. On peut donner ce médicament qu'on pourrait appeler la panacée qui peut... Non, la prise en charge, c'est-à-dire le traitement des addictions, est une prise en charge globale. C'est vous, c'est votre personnalité, votre environnement, votre psyché, votre caractère.
Il y a du comportement.
Voilà. Et puis, de la relation, c'est une bonne nouvelle, parce que on peut venir en aide sans médicaments, parfois, à des personnes en difficulté avec l'alcool.
Alors, professeur Amine Benyamina, vous restez avec nous. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et le premier de ces auditeurs nous appelle du Tchad, de la ville de Bébéto. C'est Osana. Bonjour Osana.
Bonjour Caroline Paré, bonjour professeur, bienvenue à Bébéto.
Merci beaucoup, on vous écoute Osana.
Je suis vraiment dépendant de l'alcool et je peux dire presque son esclave. J'ai commencé à boire quand j'étais étudiant et sous influence des amis qui sont tous des bébés. Et donc je me suis lancé avec eux. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Puisque sans alcool, ma vie ne fonctionne pas bien. Alors, pour bien faire un bloc, par exemple, il faut d'abord toucher à l'alcool pour que je me sens mieux physiquement. Il me faut de l'alcool. Ce qui me tourne sans alcool, je n'ai pas envie même d'une femme. Ou si je m'efforce même, je ne résiste pas. Donc, j'aimerais savoir à travers vos spécialistes, que dois-je faire pour me débarrasser de cette situation et est-ce que cela peut avoir une conséquence sanitaire sur ma personne?
Osana, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de boire?
J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Peut-être je vais décider de ne pas prendre l'alcool, mais au bout d'une journée ou de deux jours, je ne supporte plus et je retombe encore dans l'alcool. Donc, j'ai essayé plusieurs fois.
Vous avez essayé tout seul ou en allant voir un médecin?
Non, je n'ai pas essayé de voir un médecin, mais avec les conseils, surtout des hommes religieux, qui m'exhortent même parfois avec des passages bibliques. Et je tente d'abandonner ça, mais ça ne marche pas. Quand je ne prends pas part, je me vois vraiment fragile, j'ai des maux de tête, donc il y a des manifestations partout dans mon corps. Donc je répare, je commence à consommer, donc ce n'est pas facile à essayer, mais je n'ai pas pu vraiment trouver une solution.
Professeur Amine Benyamina, difficulté d'arrêter, ce que dit aussi Osana, c'est qu'il ressent dans son corps les effets de l'alcool. Malgré tout, il s'interroge pour savoir si ça a des effets sur sa santé. Il a en partie répondu à sa propre question.
Alors Osana a décrit très clairement un syndrome de manque lié à l'arrêt d'alcool. Il a conscience que la consommation d'alcool est en train d'endommager, commence à endommager un peu son corps. Et de ce qu'il dit, je pense qu'il a raison de réagir. Alors simplement, je pense qu'il a besoin d'aide, parce qu'au bout de 48 heures, il ressent les effets du manque. Il peut être aidé sur une période très courte, sur une semaine, 10 jours, c'est ce qu'on appelle le syndrome de sevrage. Et ensuite, tout le travail, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Caroline, c'est une aide psychologique pour éviter de recommencer la consommation. C'est ce qu'on appelle le craving, cette envie irrépressible de consommer et de répéter la consommation.
Professeur Benyamina, quand vous dites qu'il a besoin d'être aidé, par qui, comment?
Alors, je ne connais pas le fonctionnement au Tchad. Il peut être aidé par un médecin, s'il y a un médecin qui connaît un peu les addictions. Dans ce cadre-là, un médecin généraliste est tout à fait capable de l'aider. Il y a des traitements, non pas des traitements pour arrêter de consommer, mais pour supporter l'arrêt. Petite nuance. C'est assez simple, c'est codifié, ça se trouve même sur Internet, les protocoles. Et puis, il a besoin de discuter et il a besoin d'exprimer un peu ses démons, les situations dans lesquelles la tentation est plus grande que d'autres.
Osana, voilà ce conseil, allez voir un médecin, en parler avec lui. Ces questions que vous nous posez, vous les lui posez directement et il vous donnera très certainement des pistes à suivre pour pouvoir justement vous aider. Si vous avez déjà la volonté d'arrêter, on peut dire qu'une partie du chemin est fait. Il reste bien sûr la suite. On vous souhaite une excellente journée chez vous à Bébéto au Tchad. On va prendre tout de suite en ligne un auditeur de la République démocratique du Congo de Kinshasa. C'est Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie, on vous écoute.
Bonjour madame et bonjour à l'invité.
Bonjour.
Ma préoccupation est de savoir, parce que ça fait un beau bout de temps, en moyenne je prends 2 bouteilles et cela remonte près de 10 ans.
Excusez-moi, je vous interromps tout de suite Jean-Marie. 2 bouteilles de quoi et 2 bouteilles de quel volume?
2 bouteilles de bière, donc de 30 centilitres.
30 centilitres par jour, donc moins d'1 litre par
oui.
jour.
Mmh, mmh. Et cela remonte à plus de 10 ans. Alors je voudrais savoir s'il y a, par rapport à mon âge, j'ai 60 ans, et s'il y a un impact direct dans l'organisme. C'est un peu ça ma préoccupation.
Et j'ai une autre petite question, Jean-Marie. Quand vous buvez ces bières, c'est simplement par habitude ou parce que vous en ressentez le besoin absolu?
En tout cas, je ressens le besoin absolu.
Est-ce que vous... Il n'y a pas un jour sans bière, on va dire?
À moins que je sois malade.
À moins qu'il soit malade.
Professeur Benyamina.
C'est très bien, parce que là, on a le sentiment, avec deux bières, que vous êtes dans les normes, entre guillemets, de l'OMS. Simplement, le fait de consommer pendant 10 ans et que vous n'êtes plus dans une relation de liberté vis-à-vis de l'alcool, la question se pose de votre dépendance, même si on a le sentiment que la quantité est moindre par rapport à d'autres témoignages. Il est assez simple pour voir un peu s'il y a des effets. Vous pouvez faire un petit bilan biologique et voir l'état de votre foie. Vous faites un bilan, vous voyez l'état de votre foie. Vous pouvez, à votre âge, prendre votre tension artérielle. Vous pouvez vous peser. Il y a un certain nombre de critères objectifs sur lesquels vous pouvez avoir une idée sans pour autant développer une maladie. Mais si vous téléphonez à RFI aujourd'hui et que vous posez la question au professeur Benyamina, c'est que vous êtes instinctivement un peu inquiet. Et si vous êtes inquiet, dès lors qu'on est un peu inquiet, il faut s'explorer.
Est-ce que parfois, Jean-Marie, vous dépassez ces deux fameuses bouteilles par jour?
Ça peut arriver, par exemple, dans une manifestation. Ça peut arriver, ça arrive souvent.
Une réunion entre amis, ça peut arriver une fois par semaine, par exemple, d'aller à 3-4?
Ouais. Mais pas plus de 4, en tout cas. Mmh. Là, je suis disciplinée.
Donc, c'est qu'il y a vraiment une question qui se pose. Ces examens pour voir un petit bilan de santé, pour voir où vous en êtes à 60 ans. De toute façon, c'est quelque chose qui se fait naturellement.
C'est très important. Et ce que vous pouvez faire, Jean-Marie, c'est que vous pouvez sauter un jour et voir ce que vous ressentez. Au lieu de boire tous les jours, essayez de boire un jour sur deux.
Voilà, un jour vous n'êtes pas malade.
Et vous verrez un peu. Ça vous donnera une idée sur votre capacité à vous défaire de ce rythme.
Merci pour les conseils.
Excellente journée à vous à Kinshasa. On va passer de l'autre côté du fleuve pour passer à Brazzaville. On est au Congo avec Modé. Bonjour Modé.
Bonjour RFI, bonjour Caroline Paré et bonjour aux auditeurs de RFI.
On vous écoute Modé.
Oui, je vous appelle depuis Brazzaville. En fait, moi je suis pas addict de l'alcool. Sauf que il y a 3-4 ans, à la suite de la mort de mon fils, qui m'avait tellement marqué, je me suis plongé un peu dans l'alcool. Il m'arrivait parfois à finir toute une bouteille de whisky d'environ 1 litre en 2-3 jours. Et chemin faisant, j'ai commencé un peu à prendre du goût. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir quelques ennuis au niveau de ma santé. Et un médecin m'a consulté, il m'a dit que ta tension n'est pas stable. J'ai 36 ans d'âge déjà, je vous le précise. Mmh. Et donc, il m'a déconseillé un peu tout ce qui est excitant. Le mal que je ressens est lequel? J'ai ma main gauche qui, au niveau des articulations, je veux dire l'épaule, le poignet, le coude, j'ai comme l'impression qu'elle est sclérosée. Il y a comme des crampes. Et moi, ma question est celle de savoir, est-ce que cela peut être dû à ce degré d'alcool que je prenais, puisque en passant, je peux aussi préciser qu'il arrive que je prenne parfois 2 bières, 3-4 par jour ou même 8 par semaine.
Mais les grandes quantités de whisky, c'est terminé.
Oui, j'ai cessé avec ça parce que je me suis dit, est-ce que ça a eu une relation de cause à effet? Donc, j'avais abandonné un peu. Mais le mal, il est toujours là.
Le mal au niveau de votre main, professeur Benyamina.
Alors, ce que j'ai cru comprendre dans le témoignage de Modé, c'est que vous avez eu recours à l'alcool pour essayer de, finalement, de vous automédiquer, ce qu'on appelle l'automédication, pour des problèmes réels, stress, accident de la vie. Alors, j'ai du mal à relier cette douleur de la main avec une consommation d'alcool. Ça fait pas partie des éléments classiques de dommages liés à la consommation d'alcool. Pour autant, vous n'êtes pas en face de moi, je n'ai pas fait d'examen, c'est compliqué pour moi de me prononcer. Mais, encore une fois, si vous vous posez la question, mieux vaut, évidemment, aller explorer cette main. Ça peut être tout et n'importe quoi, comme ça peut être un problème articulaire ou neurologique ou périphérique. En revanche, la prise d'alcool pour laquelle vous avez réussi à stopper est une bonne chose pour vous, parce que ça aurait pu être le début d'une consommation importante, quotidienne et massive. Et je pense que là, et vous êtes jeune, hein, 36 ans, c'est très jeune. Donc, il n'y a pas d'alarme. Hein, je ne vois pas dans votre discours quelque chose d'alarmant. Mais si ce problème persiste, faites au moins une radio, demandez à faire une radio pour voir s'il n'y a pas un problème de type particulier. Mais ça ne ressemble pas aux pathologies classiques liées à la consommation chronique d'alcool.
Voilà, Maudet, excellente journée à vous à Brazzaville. On va partir pour le Mali, pour Bamako, rejoindre Fomba. Bonjour Fomba.
Oui, bonjour Caroline, bonjour professeur.
On écoute votre question, Fomba.
J'aimerais savoir, est-ce qu'il est normal qu'une femme enceinte ou en état de grossesse puisse consommer de l'alcool? Et quel peut être l'impact mental sur l'enfant et sur la maman?
Question Fomba que je reformule parce que la ligne n'est pas très bonne sur l'impact de l'alcool lorsqu'une femme est enceinte, aussi bien sur sa propre santé que sur celle de l'enfant à naître, professeur Beniamina.
Alors là-dessus, nous sommes catégoriques et formels. Zéro alcool pendant la grossesse.
Ouais, là, il n'y a pas question d'un verre, un demi-verre ou quoi que ce soit,
alcool.
C'est zéro.
C'est zéro, même pas une goutte d'alcool, parce que on le sait maintenant de manière très claire, il y a ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est-à-dire la naissance d'un enfant qui est handicapé sur le plan cognitif, sur le plan physique, même sur le plan intellectuel, plus ou moins en fonction de la quantité consommée. Donc zéro alcool et, si possible, faire très attention lorsque il n'y a plus de contraception. Et donc avant même la conception, l'alcool est très très délétère pour une femme enceinte.
Voilà Fomba, pourquoi vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est enceinte et qui consomme de l'alcool?
Oui.
Oui, bah alors il faut, c'est clair. Hein, là, vous avez, c'est assez rare qu'on donne des réponses aussi claires, mais là, les réponses sont absolument nettes. C'est zéro alcool. D'ailleurs, depuis un certain temps, il y a cette indication, on peut dire ce pictogramme sur les bouteilles d'alcool en France, avec de profil la silhouette d'une femme enceinte avec marqué sens interdit. C'est no alcool. Voilà, tout simplement. Voilà.
On va agrandir.
On va l'agrandir. Ça a été obtenu justement dans la lutte contre les justement ce genre de conduite, parce que c'est des problèmes de santé à venir pour le bébé. Voilà, absolument. Fomba, cette réponse à Bamako. En cas justement de consommation d'alcool, beaucoup d'auditeurs se posent la question sur le rapport tout simplement au verre. À partir de quand, au niveau quantitatif et aussi au niveau qualitatif, quel type d'alcool, etc., avec ce fameux rapport un verre, une chope, une bouteille. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs à ce sujet, professeur Beniamina?
Alors c'est très important à avoir en tête. Quand on parle de verre, on parle de verre de bistrot, de verre dans le commerce. Moi j'ai des patients qui disent: docteur, je n'ai pas bu d'un, j'ai pris un verre hier et puis voilà, je fais ce qu'on appelle une, attention, j'opte pour la consommation contrôlée. Simplement, le verre à la maison, c'est du verre Pyrex, c'est très grand. Alors que le verre en bistrot,
C'est un ballon. C'est 25 centilitres.
25 centilitres. Voilà. C'est l'équivalent d'une dose de whisky, de pastis, d'une coupe de champagne, de 33 centilitres de bière, mais dans le commerce. Donc là, c'est à partir de là que l'on calcule la quantité d'alcool consommé et qu'on arrive à être dans les proportions où les dommages ne s'installent pas, du moins en théorie. Ça a été ce qu'on appelle les repères OMS. Donc c'est ce qu'il faut avoir en tête. Hein. Il faut vraiment faire attention là-dessus.
Par exemple, quand quelqu'un vous dit j'ai bu un verre de whisky, il faut vraiment savoir la quantité parce que là, on n'est pas du tout dans le même rapport au niveau de l'alcool. Hein.
Absolument.
Alors on va prendre un autre auditeur. Il est à Niamey au Niger. C'est Abdoulaye. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Catherine.
Caroline, c'est pas grave. Abdoulaye, on écoute votre question.
Alors, la question que j'aimerais poser est la suivante. La toute première est la suivante. En effet, ici, par exemple, dans nos pays, comme le Niger, et notamment à Niamey, et lorsque je suis avec des amis qui boivent de l'alcool, qui sont dans l'alcoolisme, quand je leur pose la question, pourquoi est-ce que, par exemple, ils rentrent dans l'alcoolisme, ils me répondent toujours que c'est lié à des problèmes, de famille, par exemple, des problèmes relationnels, tels que les problèmes dans la vie des couples, ou bien les problèmes avec les parents, ou bien, par exemple, le manque de travail, le chômage, etc., etc. Alors, ils disent que la raison principale qui les pousse à prendre de l'alcool, c'est en fait ces raisons-là que je viens de vous évoquer. Et, or, je constate qu'effectivement, de plus en plus, et les jeunes ici boivent de l'alcool et même prennent des stupéfiants à cause et de ces problèmes sociaux. Donc, j'aimerais savoir, en réalité, s'il y a un rapport, enfin, si la cause réelle de l'alcool, généralement, et ce sont des causes externes ou bien ce sont des causes internes à l'individu. Donc, c'est ce que j'aimerais poser comme première question aux médecins.
Oui. Question très intéressante, Mme Boulaye. Oui, oui. On va répondre à cette question, on prendra la deuxième après, si vous voulez bien, professeur Benyamina.
Alors, ce qu'on appelle les contingences sociales, environnementales, sont un facteur de rencontre avec le produit, mais ces raisons ne résument pas elles seules le rapport à l'alcool, et encore moins, ne peuvent pas résumer toutes les personnes en difficulté avec l'alcool. La preuve en est, en France, on est un des pays grands consommateurs d'alcool. Il faut reconnaître que c'est pas un pays dans lequel... comparé à des pays en conflit, en guerre, avec une crise économique monstrueuse, et les gens consomment beaucoup d'alcool.
Et on voit en plus que l'alcoolisme, on le retrouve dans toutes les classes sociales, même quand on est riche, on peut tomber dans l'alcool.
Donc il y a d'autres facteurs, il y a des facteurs de proposition d'alcool. La France est un pays dans lequel on a une proposition d'alcool, c'est essentiellement le fait aussi des lobbies très puissants aussi, c'est comme ça. On a aussi le rapport individuel à l'alcool, il y a des personnes qui sont plus sensibles et qui aiment ça, et qui sont donc plus sujets à développer ça. Et sinon, il y a des pathologies psychiatriques et psychologiques qui parfois sont traitées par l'alcool. Et on sait que l'alcool est un puissant anxiolytique, mais c'est un faux ami. Il aide à l'anxiolyse au départ, mais ensuite il nous installe dans une relation de dépendance à ce produit et les dommages arrivent juste après.
Abdoulaye, votre deuxième question pour conclure.
D'accord. Alors, merci vraiment pour la réponse de la première question. Et la deuxième question, ce sont les effets de l'alcool et sur le comportement. Donc, ce qu'on constate est très souvent, et ici dans nos pays africains, je ne sais pas donc de l'autre côté, et par exemple de l'Europe ou bien des États-Unis, mais ici principalement chez nous, et les dégâts de l'alcool sur les individus, c'est sur le plan comportemental. C'est-à-dire donc que les personnes qui sont poussées très loin, qui ont poussé très loin l'alcoolisme, finissent par des maladies mentales. Est-ce que réellement, j'aimerais savoir, est-ce que, par exemple, les effets de l'alcoolisme et même de l'addiction, je peux dire, oui. Est-ce que ça peut entraîner des troubles de comportement chez l'individu?
Oui, absolument. Les addictions peuvent entraîner des troubles du comportement de deux types. Les troubles du comportement liés à l'intoxication, ce qu'on appelle les troubles de comportement aigus. Et en fonction du type de produit, on va avoir un type de comportement. On peut être soit complètement sédaté, soit complètement excité, ou parfois on peut être même un peu parano, un peu agressif. Et parfois, il y a un alcool qui va nous faire réagir autrement en fonction de son patrimoine génétique, biologique et psychologique. Ça, c'est vrai. Donc ça existe. Et ensuite, il y a des profils géographiques. J'aime pas le mot ethnique, mais c'est un peu culturel, qui peuvent s'exprimer différemment en fonction des latitudes, ce qui est vrai. Mais ça ne résume pas, tout. On peut avoir un effet transgénérationnel, transculturel lié à l'alcool. Ok?
Voilà, excellente journée Abdoulaye à vous à Niamey au Niger. On parlait tout à l'heure avec Abdoulaye justement du rôle de l'environnement social sur les conduites addictives. La question se pose dans le monde du professionnel. Hein. Est-ce qu'il arrive parfois que le travail pousse à boire? Le lieu même du travail peut devenir le théâtre d'une alcoolisation. Et certaines entreprises ont un rôle à jouer en matière de prévention. Une question sensible, hein, comme le souligne Patrick Issartel. Il est responsable du service expérimentation à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
Les entreprises, aujourd'hui, elles font face à l'événement indésirable sans avoir anticipé comment est-ce qu'on peut traiter la question. Je dirais l'inclinaison naturelle va être de dire on va traiter le corps individuellement, on va orienter vers la médecine du travail, on va arrêter la personne plus ou moins longtemps, on va la faire rentrer dans un processus. On aura peut-être résolu le problème de la personne si elle s'en sort. Quid du problème que ça a généré dans l'entreprise? Comment est-ce qu'on va faire pour pallier l'absence d'une personne ou son licenciement, la perte de ressources et de compétences qu'a porté cette personne et le traumatisme que peut avoir un incident mortel pour les autres collègues par exemple? Parce que dire moi dans mon entreprise j'ai un problème avec l'alcool ou avec une substance psychoactive, c'est pas évident qu'on soit le salarié concerné ou qu'on soit l'entreprise concernée. Donc plutôt essayer de faire entrer des entreprises dans des projets collectifs, expérimentaux, que les personnes se rendent compte qu'elles sont pas seules face à ces problèmes, que les difficultés sont peut-être les mêmes, les solutions peuvent être trouvées chez l'autre, et donc sans se poser la question de la stigmatisation ni de l'entreprise ni du salarié.
Alors, illustration dans un milieu professionnel particulier, celui des prisons. Certains établissements pénitentiaires ont lancé un programme. Ça s'appelle Référent local d'addiction, comme l'explique Mathieu Peignier, responsable de formation à la direction interrégionale des services pénitentiaires à Lille, dans le Nord.
Le collègue peut en parler directement avec son collègue, si on a une suspicion, si on a un doute, pour voir réellement ce qui se passe. S'il ne le sent pas trop, si ça gêne, s'il ne se sent pas à l'aise, il peut aller voir le référent local d'addiction, qui est là justement pour ça, qui est une personne volontaire. Tout corps de personnel confondu, ça peut être du corps administratif, du corps de surveillance, etc., etc. Il est là pour écouter, pour aller parler avec les agents en difficulté, qui a une lettre de mission, qui lui dit exactement ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Donc c'est orientation, écoute, dialogue et sensibilisation. C'est ses missions principales, il n'est pas du tout dans le soin. Il est là pour écouter, orienter et sensibiliser les autres personnels avec des actions de sensibilisation, des forums sur les addictions en général, etc., etc. Là, actuellement, on a quasiment tous les établissements qui sont couverts, mais vu que c'est du volontariat et que les missions sont un peu compliquées, que c'est pas évident pour tout le monde d'accepter de faire ces missions-là, des fois on a des petits problèmes de recrutement, donc on relance des campagnes pour la direction de l'établissement, on relance des campagnes aussi pour recruter des nouveaux volontaires, mais oui, il y en a quasiment un dans chaque structure, un voire deux, voire trois parfois par établissement.
Des témoignages avec Amélie Beaucourt. On vous retrouve, professeur Amine Beniamina, psychiatre addictologue, chef du département de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Il y a un vrai travail à faire sur les conduites addictives et l'alcool en particulier en milieu professionnel.
Ah oui, un gros travail. Alors évidemment, on parle de l'alcool, c'est facile parce que ça peut être visible et ça se voit, ça s'entend à la limite et ça se sent. Mais toutes les addictions doivent faire l'objet de ce type d'initiative que je trouve vraiment salutaire.
Il n'y a pas que les médecins qui ont leur mot à dire.
Surtout pas. Les médecins sont le dernier recours.
Impliquer l'environnement.
Le principe de la prévention, c'est d'intervenir bien en amont. C'est quand même ce que notre ministre a annoncé pour le plan national de santé publique, c'est l'environnement. On va changer de paradigme. On est très bon dans le curatif et il faut aller vers le préventif. Et le préventif, c'est ce qu'on appelle les facteurs modifiables. Et dans les facteurs modifiables, les addictions, tabac, alcool, médicaments, drogue. Donc là, on peut faire des choses très intéressantes. Et il ne faut pas avoir peur de venir bousculer la société dans son confort.
Et tout à l'heure, on disait la France, on a vu une baisse de la consommation, même si elle reste encore très importante. Et un rapport de 2017 de l'OMS pointe la forte hausse de la consommation d'alcool en Afrique. Alors comment est-ce qu'on explique, professeur Amine Beniamina, que des consommations augmentent ou régressent au niveau national? Là, c'est tout le rôle de la prévention.
Ah ben, je pense qu'il y a
le rôle de la loi aussi.
Il y a la prévention, la loi, et puis... il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Moi, je vais souvent en Afrique et en Asie. On a les grands groupes qui distribuent l'alcool qui sont hyper puissants dans ces pays. Moi, j'ai vu des marques de bière très célèbres dans le monde d'origine hollandaise, les gens virent. Mais avoir pignon sur rue, il n'y a pas de loi qui encadre, il n'y a pas de loi qui protège. C'est là ce qui est en train d'arriver en France, avec la disparition pratiquement de la loi Evin. S'il n'y a pas un cas pour protéger, l'idée ce n'est pas de casser le marché, de casser les profits, c'est de protéger. Il y a de l'espace pour une protection et une vraie mission de santé publique et que les gens commercent leur commerce. Si on fait du commerce, on détruit la santé publique et finalement ce n'est pas très bon. J'ai vu la même chose en Asie.
Vous citiez la loi Evin, c'est cette loi qui depuis 1991, si je ne me trompe pas, réglemente notamment la publicité, la communication, l'affichage public en quelque sorte. Et on voit là le rôle des lobbies, on en parle à chaque fois, c'est énorme en France, avec justement cette dimension terroir, pratiquement patrimoine culturel.
Oui, non, mais on n'est pas contre simplement, derrière ce vocable et derrière cette assertion, on voit le grignotage finalement de l'espace de protection des Français. L'idée, ce n'est pas de casser. L'idée, c'est de chacun dans son périmètre. Moi, je suis médecin, je suis en charge et je suis responsable fédératif en charge de donner une information loyale et pas des fausses informations pour que les Français en toute liberté arrivent à se protéger. Et puis, en face, j'ai bien conscience de l'importance de cette filière. On va pas la casser, c'est pas notre but. On n'aura ni les moyens ni l'envie.
Et c'est pas les uns contre les autres. Professeur Amine Beniamina, on va s'arrêter sur le continent africain puisqu'on part tout de suite pour la Guinée.
Priorité santé sur RFI.
Pour retrouver à Conakry le docteur Mamadi Mori Keïta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre addictologue au CHU Donka. Est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Keïta, qui consomme de l'alcool aujourd'hui en Guinée?
Merci. Avant de commencer, je voudrais dire bonjour à mon maître, le professeur Amine Beniamina, et à toute l'équipe RFI.
Bonjour à vous.
Merci.
Et surtout de nous associer vraiment à ces analyses. En fait, en Guinée, la consommation de l'alcool en Guinée n'est pas, du moins, notifiée sur le plan national, mais nous avons constaté quand même, dans les statistiques hospitalières, qu'elle est devenue de plus en plus importante au niveau de la couche juvénile et également chez les jeunes filles. Donc, parmi nos malades mentaux au service de psychiatrie, il y en a au moins, comme le professeur Benyamina le dit très souvent d'ailleurs, les troubles bipolaires qui sont corrélés à la consommation d'alcool. Donc, les malades psychiatriques consomment beaucoup plus, mais il y en a aussi une consommation très importante au sein de la population, et notamment parmi les jeunes et les jeunes filles. Merci.
Alors, docteur Keïta, quel type d'alcool, justement, est consommé en Guinée? Et comment expliquer que cette jeunesse soit particulièrement concernée?
Bon, il y a plusieurs types d'alcool. Il y a beaucoup plus l'alcool traditionnel, le vin de palme ou le vin de raffia, qui est vraiment qui a une large consommation au niveau de la population, parce qu'on rencontre des buvettes un peu partout qui font du vin traditionnel. Mais il y a aussi de l'alcool qui nous parvient de la Sierra Leone, du Libéria, un petit sachet de quelques centilitres, et que la jeunesse consomme beaucoup plus. Je peux vous citer par exemple le coconut, le bomba, qui est un mélange de guine et de vodka, n'est-ce pas? Et il y a en plus d'autres alcools traditionnels qu'on appelle le fabal, qui sont vraiment consommés dans les bars le plus souvent. Mais il y a des alcools industrialisés comme la bière, le skull, alors le whisky, qui sont également consommés. Donc ici, il n'y a pas une loi très rigoureuse sur la consommation d'alcool. Et les distributeurs, donc le marché est bien fait pour eux parce qu'ils peuvent distribuer à tous les niveaux. Donc la jeunesse est vraiment exposée à une grande consommation, ce qui fait que à tous les niveaux, vous pouvez constater la consommation.
Et quelle structure existe pour la prise en charge des personnes dépendantes, docteur Mamadi Mori Keïta?
Merci pour la question. Il y a la structure hospitalière seulement qui est là pour la prise en charge de ces personnes dépendantes d'alcool, notamment le service de psychiatrie de l'hôpital national d'Onca.
Et combien d'addictologues pour votre pays?
Bon, malheureusement, je suis le seul pour le moment, mais nous avons une équipe très, très, très compétente quand même qui peut prendre beaucoup de problèmes d'addictologie en charge. Donc, je me joins à toute l'équipe pour la prise en charge de ces différents cas.
Merci beaucoup, docteur Mamadi Mori Keïta, d'avoir été en ligne avec nous de Conakry, où je rappelle, vous êtes psychiatre addictologue au CHU de Donka. On vous retrouve, professeur Benyamina. On a évoqué les troubles liés à l'alcool, notamment les troubles mentaux avec le docteur Keïta. On peut citer, bien sûr, l'impact pour l'entourage. On pense au débordement, on pense à certaines attitudes de repli sur soi, voire même peut-être l'inverse, violence, accident. Tout ça, comment est-ce qu'on quantifie les effets de l'alcool, l'impact au niveau de ces accidents de la vie également?
Avant de répondre, je voudrais quand même hommage au docteur Mori Keïta qui fait un travail remarquable. Vous l'avez bien entendu, il est le seul.
Et
comme lui en Afrique, ils sont nombreux à être seuls. Ce sont des figures importantes. Ce sont des gens qui ont beaucoup de mérite. Ils sont d'abord très compétents. Moi, j'ai eu plaisir à les avoir dans le service. Ce sont des amis et on est là pour les aider aussi. Et donc, je pense que ce qu'il fait, c'est un travail de quasiment de salut public. Ils ont à la fois du soin, de l'enseignement et des référents auprès des décideurs politiques.
Donc, c'est un environnement qui n'est pas favorable, comme on l'a entendu,
absolument,
au niveau notamment de la législation.
C'est très compliqué et je peux vous assurer que lorsqu'on l'entend, on connaît le confort dans lequel on travaille ici. Alors, répondant à votre question, l'alcool est un produit qui a un pied dans la société, un pied dans la famille et le reste dans le corps de celui qui l'ingère. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est une vraie dimension politique que de légiférer autour des questions de l'alcool. Et lorsque un médecin comme moi, addictologue, parle d'alcool, il ne peut pas faire autrement que de parler aussi de politique de l'alcool. On peut pas l'ignorer. Et je suis régulièrement interpellé par mes collègues sur mes positions politiques, mes positions associatives. Et je leur dis que lorsqu'on est addictologue, on est forcément militant. Si on ne l'est pas, il faut changer de discipline. Parce que notre discipline est régie par des prises de position politique. Lorsqu'on décide de donner de l'argent pour faire une campagne de sensibilisation sur le cannabis, l'alcool, ce sont des décisions politiques.
Les lois vont avec.
Les lois vont avec. Avec des répercussions sur la santé publique. C'est ce qui se passe en Afrique, c'est ce qui se passe en France. Et donc forcément, on est obligé d'avoir cette acuité pour pouvoir gérer les choses.
Le professeur Beniamina, on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de dépendances, on va pas dire forcément vont ensemble, mais sont liées. Certains individus sont plus vulnérables. Des experts qui évoquent justement ces différents visages de la dépendance. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des dépendances plus redoutables que d'autres ou que tout cela finalement fait partie d'un même ensemble ?
Alors si je dois être cynique, je le serai ce matin, il y a un problème en France qui est redoutablement difficile à gérer, c'est l'alcool puisque c'est le sujet. Pourquoi ? Parce que c'est un produit de diffusion générale sur lequel il n'y a pas de consensus et sur lequel on est abreuvé, son jeu de mots, par des fake news, hein, des fausses nouvelles. Et donc c'est en France... C'est le problème actuellement, 49 000 morts. Je ne parle pas du tabac qui tue 75 000 morts, parce qu'on est tous d'accord pour reconnaître que le tabac est un mauvais produit. C'est quelque chose qui tue. Alors, comme disait un de mes maîtres, le tabac, c'est notre ennemi, l'alcool, c'est notre adversaire. Et j'ai le sentiment que maintenant, ça risque de s'inverser. Et ensuite, il y a évidemment des produits qui arrivent qui sont redoutables. Tout le monde a entendu parler il y a deux semaines des morts sous GHB, un produit incolore, inodore, qu'on appelle la drogue du violeur. Tout le monde connaît la diffusion du cannabis fortement dosé, la spice, 35% de tétrahydrocannabinol. Tout le monde connaît la cocaïne, les psychostimulants. Alors, ce sont des phénomènes existants, mais ils sont, sur le plan épidémiologique, sont moins impactants que la présence et l'importance de l'alcool en France.
Est-ce qu'il y a des périodes, justement, c'est peut-être que vous évoquerez cette question lors de votre congrès, des périodes qui sont plus favorables aux dépendances que d'autres ?
Pas vraiment, mais évidemment, on parle des grandes crises, des lendemains de guerre ou de catastrophes. Forcément, c'est une convulsion dans l'histoire de l'humanité. Mais la drogue existe dans l'humanité. Il y aura de la drogue. Il y a de la drogue aujourd'hui, il y en aura demain, même après de longues années. C'est la raison pour laquelle la lutte contre la drogue ne doit pas forcément passer par la lutte contre les drogués ou les personnes qui consomment. Il faut avoir un esprit de réduction des risques.
Pas une vision uniquement répressive.
Absolument. C'est pour ça que tout le débat porté actuellement au niveau de l'ONU sur la légalisation des drogues est un débat intéressant qu'il faut avoir en tête, qu'il ne faut pas occulter simplement par posture idéologique.
Et contre lequel va plutôt actuellement le gouvernement français avec une répression accrue, notamment y compris des consommateurs.
Hélas, mais je pense qu'on est en début de mandat actuel et on peut probablement penser que la force de l'évidence-based medicine, la force des preuves permettra à ce président, hein, c'est quand même, et ce gouvernement peut-être d'intégrer ces éléments.
Merci beaucoup, notre échange touche à sa fin. Merci beaucoup professeur Amine Beniamina d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes psychiatre addictologue, chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Bonjour docteur Catherine Solano.
Bonjour Caroline.
Vous êtes sexologue et on va parler avec vous aujourd'hui des varicocèles et de leur relation avec l'infertilité chez les hommes. Alors d'abord on commence par une petite définition. Varicocèle, qu'est-ce que c'est exactement ? Le nom fait penser aux varices.
Oui, c'est normal parce qu'une varicocèle justement c'est une varice, mais située à un endroit particulier puisque c'est une varice située au niveau des testicules.
Alors comment justement un homme peut-il s'apercevoir que sur son corps eh bien il y a cette varicocèle ?
Eh bien tout simplement en observant, il voit qu'au niveau d'un testicule, dans 95% c'est au niveau du testicule gauche, il y a une varice, une veine dilatée et quand même dans 10% des cas, ça concerne les deux testicules.
Et à quoi sont dues ces varicocèles ?
Mais c'est dû au fait qu'une valvule des veines ne fonctionne pas bien à ce niveau-là. Parce que normalement, le sang veineux retourne des testicules vers le cœur. Et donc, il doit remonter et donc aller dans le sang contre le sens de la pesanteur. Et pour que ça fonctionne quand même, les veines ont des valvules. Du coup, quand le sang remonte, il est bloqué, il ne peut pas redescendre. Et quand les valvules ne fonctionnent pas bien, le sang redescend et il stagne dans le testicule, dans la veine, et il finit par la dilater.
Alors, docteur Catherine Solano, les conséquences hein, maintenant, qu'est-ce que ça pose comme problème si un homme a une varicocèle ?
Bon, d'abord, esthétiquement, c'est un peu gênant parce que c'est peut-être pas joli d'avoir une veine très dilatée au niveau d'un testicule. Et puis, ça peut provoquer une sensation de pesanteur. Mais ça, c'est pas le plus gênant. Ce qui est le plus gênant, c'est que le varicocèle, ça peut être un facteur d'infertilité chez l'homme.
Alors, comment l'expliquer ? Pourquoi donc un homme qui observe une varice sur un ou deux testicules présente ce risque d'être stérile? Et d'abord, est-ce que c'est systématique?
Non, heureusement, c'est pas systématique. Il y a seulement 15 à 20% des hommes, donc environ un homme sur cinq, qui a une varicocèle et qui consulte parce qu'il a un problème d'infertilité. Donc, dans la grande majorité des cas, dans 4 cas sur 5, un homme qui a un varicocèle est quand même fertile. C'est juste un facteur de risque.
Alors, comment expliquer justement ce rapport de cause à effet?
Il y a plusieurs causes. Une des causes, c'est que le fait d'avoir les veines gonflées, ça fait augmenter la température du testicule à cause du sang qui stagne. Et on sait que les testicules ont besoin de beaucoup de fraîcheur pour fabriquer les spermatozoïdes. C'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur du corps. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des hommes qui travaillent en continu devant un four à haute température, ils peuvent avoir une infertilité parce que les testicules sont trop réchauffés. Donc ici, le testicule peut être réchauffé par la veine dilatée. En plus, à cause de la stase veineuse, on appelle ça, c'est-à-dire que comme le sang stagne, la circulation se fait plus aussi bien dans le testicule et du coup, la fabrication des hormones et des spermatozoïdes fonctionne aussi moins bien.
Alors, s'il y a entre 15 et 20% des hommes qui ont justement un varicocèle et qui sont infertiles, comment savoir justement, quand on a ce problème, que l'on est effectivement infertile?
Alors déjà, c'est surtout les grosses varicocèles qui entraînent un risque d'infertilité. Et aussi celles qui sont accompagnées d'une diminution du volume des testicules. Donc, on fait un examen et si on se dit, si le médecin se dit, c'est peut-être un varicocèle à risque, on va faire un spermogramme qui consiste à prélever du sperme et à regarder ce sperme sous le microscope, à compter les spermatozoïdes, à voir s'ils sont bien mobiles, bien formés. Et c'est avec le spermogramme qu'on peut détecter ça de manière la plus sûre.
Alors, si cette infertilité, justement, due au varicocèle est confirmé, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cet homme?
Eh bien, on va opérer le varicocèle, soit par chirurgie, soit par ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle. Donc, en chirurgie, on ligature les veines qui sont dilatées et en radiologie interventionnelle, on va les boucher soit avec un petit ressort, soit avec du produit sclérosant, exactement comme ce qu'on fait pour les varices des jambes, en fait. Et alors, ce sont des petites interventions. Les hommes n'ont pas besoin d'être hospitalisés. En général, ils rentrent le matin et ils repartent le soir chez eux.
Et par la suite, est-ce que l'homme justement va pouvoir récupérer sa fertilité?
Mais pas toujours, il la récupère dans environ 20 à 50% des cas, c'est-à-dire pas toujours. Ce qui fait quand un homme a une varicocèle, on peut dire qu'il y en a 1 sur 20 qui va être infertile. Donc c'est beaucoup, mais c'est quand même pas tout le monde, évidemment. Et puis, il faut dire qu'il récupère pas toujours sa fertilité parce qu'en fait, même quand on a opéré la varicocèle, c'est pas le seul facteur d'infertilité. Et si elle a duré longtemps, elle a pu abîmer le testicule. Donc c'est pour ça que l'idéal, ça serait de détecter ces varicocèles chez les adolescents pour les opérer quand elles sont importantes ou gênantes, de manière à ce que plus tard, il n'y ait pas de problème de fertilité.
Donc on comprend bien ce facteur temps qui joue et qui est très important pour ce type de problème. Merci beaucoup Catherine Solano. Je rappelle que vous êtes sexologue. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Le numéro de téléphone de l'émission, bien sûr, pour nous joindre directement, 33 84 22 75 75. Et vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur notre application Pure Radio, également sur le site internet de RFI, rfi.fr, la rubrique émission. On se retrouve lundi.
Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les brillants entrepreneurs, profitez d'une assurance épargne et réalisez vos projets en toute assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.